Alors, Romains 6, on était Romains 6, 14, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez que à la lumière de tout ce qu'on a vu entre les versets 1 et 13, quand Paul dit vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce, il considère donc la grâce comme être en Jésus-Christ, mort avec Christ, ressuscité avec lui. C'est ça la grâce. D'accord? Être sous la grâce, c'est pas juste être au bénéfice d'un pardon automatique et plus je pèche, plus je serai pardonné, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas ça être sous la grâce. Être sous la grâce, c'est être mort et ressuscité avec Christ. C'est-à-dire que je suis dans une position où, bien sûr, il peut encore m'arriver de pécher. D'accord? Mais en même temps, j'ai coupé avec ma vie ancienne. D'accord? Et je connais la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Et donc, au lieu de dépendre de mes propres efforts pour mettre en pratique la loi, je dépends de ma relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et je suis en relation avec Dieu constamment. Et donc, quand il y a la tentation qui vient, au lieu de me concentrer sur la tentation, parce que là, je vais tomber dedans, c'est pratiquement sûr, je me concentre sur le Saint-Esprit, sur la présence de Dieu en moi, et c'est ce qui m'aide à sortir et c'est ce qui m'aide, si vous voulez, à vivre ce que Paul décrit ici, le péché ne dominera pas sur vous. Amen. Donc ça, c'est très important. Ne pas mal interpréter cette fameuse expression, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est peut-être un des versets les plus mal compris de la Bible, hein. Il faut le relire à la lumière du contexte qui nous montre clairement que être sous la grâce, c'est être mort avec Christ et ressuscité avec lui. C'est ça être sous la grâce. C'est rien d'autre. Donc, quoi donc, verset 15, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. En plus, au verset 15, Paul veut dire, c'est comme si Paul avait anticipé qu'on allait mal comprendre ce qu'il dit. Donc tout de suite après, il reprend l'argument. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ça c'est dans le passé, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. On ira à la suite après. Ici, Paul prend l'image de l'esclave. D'accord? Il dit qu'on peut être esclave du péché parce qu'on s'est livré au péché. Ou bien on peut être esclave de l'obéissance parce on a obéi de cœur à Jésus-Christ. Donc, il est dit ici, verset 18, libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Puis tout de suite après, il dit au verset 19, je parle à la manière des hommes. Donc, sous-entendu, évidemment, on n'est pas esclave de la justice au même titre qu'on était esclave du péché, parce que Jésus n'est pas un maître d'esclaves. Et pourtant, Paul dit, quand il commence son épître aux Romains, Paul, esclave de Jésus-Christ. Donc Paul se considère comme esclave de Jésus-Christ. Il dit aussi prisonnier de Jésus-Christ, pour vous païens. Mais en même temps, la différence, si vous voulez, entre cet esclavage et celui du péché, c'est que l'esclavage de la justice, c'est un esclavage qui est libre. On s'offre volontairement à Dieu. Offrez, comment dire, Romains chapitre 12, verset 1, Je vous exhorte donc, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable. Mais je vous exhorte à le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de servir la justice. Vous n'êtes pas forcé de suivre Jésus et de le servir. D'accord? C'est l'histoire de quelqu'un qui est sur le marché des esclaves. Il faut raconter cette histoire comme ça pour que vous compreniez. Et sa vie, c'est de passer d'un maître à un autre maître. Quelqu'un qui est esclave de l'alcool, peut-être qu'il pourra se tirer de l'alcool, mais demain il sera esclave d'autre chose. Vous voyez? Parce que quand tu es esclave du péché, tu restes esclave du péché. Et on est à l'époque de l'Empire romain, où il y avait des esclaves, le marché aux esclaves. Et puis il y a un homme riche qui voit cet esclave qui est mis en vente, qui va changer de maître, et qui dit, moi, je rachète cet esclave, mais il ne le rachète pas juste pour l'avoir, comment dire, pour qu'il change de maître, mais quand cet esclave est avec lui, il lui dit, j'ai acheté ta liberté, maintenant tu peux partir libre. Donc il n'a pas seulement fait changer, il n'a pas juste acheté, mais il l'a acheté hors du marché aux esclaves. C'est ce que signifie le mot grec quand il est dit dans le Nouveau Testament qu'on a été racheté. C'est ex agorazo, c'est-à-dire on a été racheté hors de. On est sorti du système de l'esclavage. Vous suivez? Donc, dans l'histoire, cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire qui est fictive, mais c'est pour vous expliquer. L'esclave, qui a été toute sa vie esclave, qui voit que ce maître lui a acheté sa liberté, lui dit, je vous donne ma vie pour vous servir volontairement parce que je vous suis reconnaissant. Donc, il n'est pas esclave au même sens que dans le marché des esclaves, d'accord? Mais il donne sa vie volontairement par reconnaissance à celui qui a payé le prix fort pour qu'il puisse sortir de ce système d'esclavage. Vous suivez? Et c'est dans ce sens-là qu'on est esclave de Christ, pas dans le sens du marché aux esclaves. Hein? Ex agorazo. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je parle à la manière des hommes, Paul. C'est comme, il dit, à cause de la faiblesse de votre chair, comme pour dire, attendez, vous étiez esclave du péché. Maintenant, vous prétendez être libre. Mais si vous prétendez être libre et que vous continuez à servir le péché, vous êtes toujours esclave. Donc, il vaut mieux que vous soyez esclave de la justice à ce tarif-là. Vous voyez? C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire. Donc il dit maintenant, livrez vos membres. Sous-entendu, c'est votre choix, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas automatique. Livrez vos membres comme esclaves à la justice, verset 19, hein, de Romains 6. Au départ, être esclave du péché, ça amène à l'iniquité. Et maintenant, être esclave de la justice, donc mettre notre vie. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ça va aboutir, dit Paul, à la sanctification. C'est-à-dire que quand on livre notre vie à Jésus en disant je veux te servir, à ce moment-là, Dieu peut se servir de nous parce qu'on est des vases purs qu'il peut utiliser. Vous savez que dans 2 Timothée, Paul parle des vases. Il dit il y a des vases qui sont pour un usage vil et des vases qui sont pour un usage saint. Donc celui qui se purifie, ben, Dieu va l'utiliser. Vous voyez? La sainteté du point de vue biblique, c'est une mise à part pour un but particulier. Et vous savez, ma mère, quand on était enfant, elle avait des ciseaux pour la couture. Si jamais on prenait ces ciseaux pour la couture, pour couper autre chose, alors là, on se faisait taper sur les doigts. Vous voyez? Pourquoi? Parce que elle savait très bien que ces ciseaux étaient morts. C'était fini. Les ciseaux pour la couture, c'est très délicat, vous voyez? Donc, ils étaient mis à part, ils étaient sanctifiés pour la couture. Et votre corps, ça qui est intéressant, c'est que Paul parle bien des membres et du corps. Il est concret, Paul. Ce n'est pas juste dans les pensées qu'on est chrétien. Votre corps, écoutez bien ce que je vous dis, votre corps, il a été mis à part pour Dieu. Et vous vous mettez à part pour Dieu. Donc, vous ne faites plus n'importe quoi avec votre corps. Vous voyez? Parce que vous voulez que votre corps puisse être mis au service de Dieu, disponible entre les mains de Dieu et que votre vie soit pas dévoyée de telle manière que quand Dieu a besoin de vous, il dit non, bah, je peux pas me servir de ce ciseau à couture parce que il a servi à couper du câble électrique et le ciseau il est mort. Bon, je prends un exemple un peu. Hein. Le câble électrique, quand vous coupez du câble électrique avec des ciseaux à couture, c'est comme si vous, en tant que chrétien, vous allez vous comment dire, vous salir, soit par quelque chose que vous regardez, soit par des pratiques immorales, soit par des conversations ou des choses qui vous salissent et qui font que vous n'êtes plus propre à l'œuvre de Dieu. Amen. Le scalpel du chirurgien, il est gardé dans un tiroir, il est, comment est-ce qu'on appelle ça? Purifié, mais il y a un terme qui m'échappe maintenant, de telle manière qu'au moment où le chirurgien en a besoin, il sait d'avance que le scalpel, il est absolument stérile. Merci. C'était le mot que je cherchais. Il était stérilisé, vous voyez? Et donc, Dieu a besoin d'instruments qui sont stériles dans ce sens-là, mais qui portent du fruit dans un autre sens. Amen. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Sous-entendu, quand vous étiez dans le péché, vous vous moquiez totalement de ce qui était juste ou pas juste, ce n'était pas votre problème. D'accord? Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, ou dont vous rougissez maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Alors, sous-entendu, maintenant que vous vous êtes donné à Jésus-Christ, pourquoi vous n'êtes pas libre du péché? Pourquoi vous avez pas coupé avec ces choses en disant, ça m'intéresse plus, ça me regarde plus, c'est plus mon affaire, la seule chose qui compte, la chose qui m'intéresse, c'est d'être utile à mon Sauveur et je lui appartiens. Vous comprenez?
Mais des fois, on essaye de couper quand même et puis on n'y arrive pas parce qu'on est lié.
Des fois, on essaie de couper quand même, on n'y arrive pas parce qu'on est lié. Oui, il peut y avoir des liens, effectivement, dans la vie chrétienne. L'expérience chrétienne montre qu'il peut y avoir des liens avec le péché. Et donc à ce moment-là, on a besoin non pas seulement de lutter contre le péché, d'accord, mais on a besoin de soumettre ce domaine de notre vie à la Seigneurie de Christ et d'abandonner notre propre contrôle sur ce domaine de notre vie. D'accord? C'est une question de consécration. Et c'est ce que Paul dit ici. Paul ne parle pas de lutter contre le péché, comment dire, il parle de lutter contre le péché, mais il en parle toujours en rapport avec la consécration. Tu vois? Et donc, si par exemple il y a un domaine où je n'arrive pas à m'en sortir, il faut que je livre cette partie de mon corps, de mon être, à Jésus-Christ, et que je lui consacre, et que je décide, je ne m'appartiens plus à moi-même dans ce domaine, ça appartient à Dieu. Tu vois? Quand vous jeûnez, par exemple, le jeûne, c'est intéressant le jeûne, quand vous jeûnez, vous vous rendez compte à quel point la chair a encore, elle veut encore garder ses droits sur vous. Hein? Le jeûne, c'est très révélateur. Il y a des choses qui sont comme ça révélatrices. Le jeûne et puis aussi l'argent. Hein? Quand vous donnez au niveau financier, vous sentez que la chair dit non, 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 moi je veux cet argent. Vous voyez? Et si vous donnez quand même, vous coupez un lien. Si vous jeûnez, il y a des liens qui peuvent être coupés aussi. Hein, dans le jeûne et la prière. Donc si vous voulez, il y a un combat à mener, mais c'est une question de consécration. On se livre, il est dit ici, livrez vos membres comme esclaves. Livrez vos membres comme esclaves. C'est pas rien. C'est pas rien. Vous pouvez prier concrètement. Bon, il y a la question du baptême. Vous disiez que c'est très pédagogique le baptême aussi. Mais vous pouvez prier, dire Seigneur, je te donne mes mains. Vous voyez? Que mes mains te soient utiles. Je te donne mes yeux, je te donne. Et Dieu. Vous avez des chrétiens, des fois, qui, par rapport au service chrétien, je parle, qui se rebellent tout à coup en disant oui, mais moi, quand même, je ne suis pas là pour ça. Vous voyez? Moi, je ne suis pas là pour passer le balai, quand même, etc. Ou bien, tu te rends compte le temps que ça va me prendre, moi, je n'ai pas le temps. Ok, il n'y a pas de problème. Humainement parlant, si tu n'as pas le temps, si tu ne veux pas, personne ne va te forcer. Mais sur le fond, je croyais que tu avais livré ta vie au Seigneur. Tu ne t'appartenais plus à toi-même. Donc, où est ta consécration? Où est, vous voyez, le concret, on est où dans le concret, là? Il y a des domaines comme ça, le service chrétien, le jeûne, les finances, c'est des domaines qui sont révélateurs de là où en est ta vie chrétienne. Vous voyez? C'est très révélateur. Alors, ça ne veut pas dire que il faut tomber dans un autre excès qui serait de faire des sacrifices que Dieu t'a pas demandé de faire. Vous voyez? Qui serait un esprit religieux. Parce que dans l'Église catholique, il y a eu toute une culture des couvents, des monastères, etc., où effectivement, on se donnait à Dieu, mais concrètement, hein, les gens renonçaient à tout, y compris au mariage, et puis toute leur vie était une vie de consécration totale. Mais, si vous voulez, si ce n'est pas en adéquation avec ce qui se passe dans notre cœur par le Saint-Esprit, ça devient un effort humain, et donc là, on est vraiment sous la loi et non pas sous la grâce, malgré les apparences. Vous suivez ? Par contre, si c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parce qu'il n'y a que par Jésus-Christ qu'on peut offrir notre vie en sacrifice. Il n'y a que son sacrifice à lui qui est parfait. Il n'y a que en Jésus-Christ que ce sacrifice de notre vie sera agréable à Dieu. Si c'est notre propre sacrifice en dehors de Jésus-Christ, c'est un esprit religieux, c'est un faux sacrifice, et ça fait exactement, on va arriver au résultat contraire. C'est subtil, hein, mais il faut faire attention à ça. Par contre, si c'est par le Saint-Esprit que j'offre ma vie en sacrifice, à ce moment-là, ça va porter du fruit pour la vie éternelle. Donc, vous mettez en prière, concrètement, vous priez, vous dites « Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de moi? Qu'est-ce que tu veux de ma vie ?» Et vous demandez au Seigneur, et il vous montrera, et vous dira. Vous voyez? Et étape par étape, vous donnerez avec joie et volontairement ces aspects de votre vie qui jusque-là étaient sous votre contrôle, vous les laisserez au contrôle du Seigneur et vous verrez que c'est possible par le Saint-Esprit. Comme dit Jésus, mon joug est léger. Ce ne sera pas lourd parce qu'il y aura la passion de l'Évangile dans votre cœur. Vous voyez? Il faut que tout ça se soit vécu par le Saint-Esprit et c'est pour ça que, si vous voulez, le Romains chapitre 6 doit être lu en parallèle avec Romains chapitre 8. Amen. Romains 8 qui nous explique la vie par la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne par la puissance du Saint-Esprit. Sans cette puissance du Saint-Esprit, sans cette conduite du Saint-Esprit, tous nos sacrifices seront vains ou religieux et ce sera pire que tout. Hein. Verset donc 22 de Romains 6. Maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Il est parlé ici de la vie éternelle. Le salaire du péché, verset 23, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, cette vie éternelle, c'est à la fois la vie qui nous est promise après la mort, en Jésus-Christ, mais c'est aussi une vie qui commence au moment où on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur. C'est une qualité de vie divine, la vie de Dieu. Christ vit en nous, d'accord ? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc cette vie, elle a déjà commencé en toi, et elle sera complètement manifestée au moment du retour du Seigneur, comme on disait tout à l'heure par rapport au salut passé, présent et futur. Mais c'est ce qu'on appelle donc la vie éternelle. Elle est déjà en nous, sous forme des arts de l'esprit, hein, comme on disait tout à l'heure, mais elle sera, on aura pour fin la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est dit, si vous voulez, pour fin la vie éternelle, il est dit dans 1 Corinthiens 15, 50, je crois. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Oui. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et donc il dit ici, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la corruption, au sens de la mort. Et par contre, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ce qu'il dit ici quand il dit hériter le royaume de Dieu. Amen. C'est la même chose. Ça veut dire que on ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle si cette vie éternelle n'est pas déjà en nous à l'état de semence. Parce que dans le contexte de 1 Corinthiens 15, il parle de la semence. D'accord, de la vie éternelle en nous. Et puis quand on meurt physiquement, on sait que cette semence va être transformée et on recevra un corps de résurrection au moment de la résurrection. Voyez? Mais si tu sèmes pas au moment où tu meurs, s'il n'y a pas la vie de Christ en toi, tu sèmes rien du tout et donc il n'y aura pas de résurrection au sens, tu n'auras pas une résurrection glorieuse. Tu ressusciteras pour le jugement, mais tu n'auras pas la résurrection glorieuse parce que tu n'as rien semé. Parce que tu n'as pas reçu Christ avant de mourir. C'est trop tard. Vous suivez? Non, je ne suis pas. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul nous dit ici d'être esclave de la justice et pas esclave du péché. De se livrer au Seigneur. D'accord? Et il dit il y a un but final dans tout ça. C'est la vie éternelle. Amen. Maintenant, si je vis dans le péché, si je sème pour la chair, je moissonnerai de la chair la corruption, c'est-à-dire la mort. Galates chapitre 6. Ok? Si je sème pour la vie éternelle, je moissonnerai la vie éternelle. Ok? Si je sème pour la justice, je moissonnerai la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, Paul dit, on va tous mourir. D'accord? Maintenant, qui est-ce qui va hériter la vie éternelle? Ceux en qui Jésus-Christ est venu dans leur cœur pour laver leurs péchés. D'accord? Parce qu'il dit, ce que je sème, ça va reprendre vie. Dans le naturel et dans le spirituel, c'est pareil. Quand je vais mourir physiquement, d'accord, les gens vont pleurer sur votre tombe et tout y quanti, mais en réalité, ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai semé. Si j'ai Jésus-Christ en moi, je sais que je vais ressusciter. Alléluia, donc on peut se réjouir. Mais si je n'avais pas accepté Christ dans ma vie et que je meurs, à la fin des temps, oui, on va tous ressusciter pour le jugement. Au sens général du terme, on comparaîtra devant Dieu dans le jugement, mais je ne recevrai pas le corps glorieux de la résurrection parce que je n'aurai pas reçu la justice de Christ étant sur cette terre. Vous suivez? Donc la semence qui est mise en terre au moment où je meurs, ce n'est pas la bonne semence pour hériter de la résurrection. C'est la mauvaise semence, c'est celle du péché. Et donc je vais hériter la mort. Vous voyez? Ce que vous semez, ce qui va apparaître comme plante dépend de la semence. Si vous semez des tomates, vous récoltez des tomates. Vous semez des pépins de pommes, il y aura un pommier. Ce sera pas un poirier, ce sera pas des chardons, d'accord? Maintenant, si en vous il y a la vie de Christ, eh bien, dans la vie future, ce que vous allez récolter, c'est la résurrection. C'est l'héritage de la vie éternelle. Si maintenant quelqu'un sur cette terre ne vit pas pour Dieu et n'a pas la vie de Dieu en lui, quand il meurt, qu'est-ce qu'il peut espérer? Sinon, la corruption. Vous suivez ce que je... C'est ça que Paul est en train de nous dire. Vous voyez? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça peut paraître dur, mais c'est la réalité. C'est ça l'évangile. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous voyez? Et cette vie, elle commence au moment où je me convertis, mais elle se prolonge dans la vie éternelle, dans la vie après la mort, si vous préférez, dans le ciel, quand on recevra quand on sera jugé et qu'on recevra la vie éternelle. Est-ce que tu as mieux compris maintenant?
Oui.
Bon.
Merci.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Enfin, pour tout le monde, c'est difficile à dire ceux qui sont sur Facebook. Ils pourront chatter. Ok, au chapitre 7. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. En fait, ici, Paul va en quelque sorte commenter le verset 14 du chapitre 6 qui disait « Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Ok ? Et de nouveau, Paul va parler de la mort. « Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Ainsi, il prend un exemple. D'accord ? Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Bon, il prend cet exemple parce que, si vous voulez, du point de vue de la loi, la loi dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. D'accord ? Et en fait, la seule chose qui nous sépare, vous savez, quand vous êtes mariés, il y a la phrase qui dit « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Vous voyez ? Il y en a un qui va mourir avant l'autre, quasi en même temps, enfin, ça c'est... Mais donc, à ce moment-là, celui qui reste encore en vie est dégagé de l'alliance du mariage, parce que le conjoint est mort. Hein ? Après, Paul dira plus tard, dans 1 Corinthiens 7, « Si vous êtes dans le veuvage, moi je ne vous conseille pas de vous remarier », mais il dit, ça c'est mon conseil personnel, il avait des raisons pour le dire, c'est une autre question. Mais il dit, vous pouvez vous remarier, vous voyez, du point de vue de la loi. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. En d'autres termes, si la veuve se remarie, elle a droit. Hein? Voilà, ça, il explique quelque chose de la loi, toute simple. Ok ? Je ne rentre pas dans toutes les questions, mariage, remariage, s'il y a eu la clause de Jésus qui dit « sauf pour cause d'infidélité », etc. Je ne rentre pas là-dedans, d'accord ? Et Paul ne rentre pas là-dedans. Parce qu'il n'est pas en train de nous donner un enseignement complet sur le mariage et sur la question du remariage. Il est juste en train de nous prendre un exemple de la loi pour illustrer une question beaucoup plus importante à ses yeux, qui est celle de notre relation avec Christ et avec le péché. Vous voyez ? Donc, est-ce que vous avez compris le principe du mariage ? Hein ? Tant que le conjoint est vivant, je n'ai pas le droit d'avoir un autre conjoint, mais quand il est mort, j'ai le droit. De même, verset 4, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps de Christ, donc vous êtes morts en Christ, si vous préférez, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, en un seul verset, Paul, de manière assez concise, nous dit, eh bien, comme par la mort de Christ, vous êtes morts. Dans 2 Corinthiens 5, 14, il dit, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, il considère que nous sommes morts. Et il disait au chapitre 6, considérez-vous comme morts. Donc, en fait, Paul est en train de faire un commentaire sur ce qu'il vient de dire au chapitre 6. Il continue dans la même veine. Hein. Donc, comme vous êtes morts en Jésus-Christ. Et là, il ne parle pas d'être mort au péché, il parle d'être mort à l'égard de la loi. Intéressant. Tout à l'heure, on était mort au péché, maintenant on est mort à la loi. Et il dit, vous êtes mort pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire à Jésus. D'accord ? Afin de porter des fruits pour Dieu. Quand on est marié, on a des enfants, on porte des fruits. Ok ? Et donc, ce qu'il veut dire, c'est que quand on était uni à la loi, quand on était, entre guillemets, marié avec la loi, d'accord ? Eh bien, ça produisait du péché. Parce que la loi peut donner la connaissance du péché, mais elle ne peut pas apporter la justice, elle ne peut pas nous sauver. Par contre, quand on est mort à la loi, et qu'on est uni à Christ ressuscité, c'est-à-dire qu'on marche par l'Esprit, on marche sur le régime nouveau de l'Esprit, et non pas de la loi, à ce moment-là, on va commencer à porter des fruits pour Dieu. Alléluia. Ce ne sera plus le fruit du péché, ce sera le fruit de la justice, le fruit de la sainteté. Est-ce que vous suivez ? Ok. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tant que la mort n'intervient pas, on reste soumis à la loi. On ne peut pas s'en dégager. On ne pouvait pas dire qu'on était... On ne peut pas dire qu'on n'est plus sous la loi s'il n'y a pas la mort qui est intervenue. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous voyez? De même que quelqu'un peut... Une femme qui, dans son exemple, qui tout à coup dit « moi je change de mari », elle n'a pas le droit de le faire. Parce que son mari est encore vivant. Elle n'a pas le droit. Même si elle a un sale caractère, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le choix. Ok? C'est la loi, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une mort qui intervienne. Maintenant, il dit, pour nous, on pourrait dire, ah, mais la loi, j'en ai marre de la loi, moi je veux la liberté. Non, c'est pas possible. À moins que la mort intervienne. Or, il dit là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vous qui allez mourir. Ok? C'est vous qui allez mourir à la loi. Et vous êtes mort à la loi en Jésus-Christ. Et donc, la vie nouvelle que vous avez maintenant, c'est plus moi qui vis, dit Paul dans Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Cette vie nouvelle, elle est unie avec Jésus-Christ et elle porte du fruit. Alléluia. En fait, Paul nous redit ce qu'il a dit au chapitre 6. Simplement avec une nouvelle image et pour nous expliquer, surtout parce qu'il parle à des juifs, certains de ses auditeurs, de ceux auxquels il écrit, ils connaissent la loi juive, ou ils l'ont vécu. Donc il faut qu'il leur donne des arguments de l'Ancien Testament qui sont clairs, pour qu'ils s'y retrouvent. Parce que dire à un juif « t'es plus sous la loi », c'est un scandale absolu. Comment je suis plus sous la loi? Et Paul dit « oui, il y a un moyen de ne plus être sous la loi ». Regardez, prenez l'exemple. Le mariage. Quand le conjoint meurt, t'es dégagé de la loi. Donc il y a un moyen, c'est la mort. Or, vous êtes mort en Christ. Donc, vous n'êtes plus sous la loi. Vous voyez la puissance du raisonnement là? C'est ça que Paul dit en fait. Mais maintenant, verset 6, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Alors, cette affaire de régime de l'esprit, régime de la lettre, il en est parlé dans 2 Corinthiens chapitre 3. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 3. Et je crois qu'on en a parlé un tout petit peu dans quand on faisait le commentaire de Romains chapitre 3, mais 2 Corinthiens 3, 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, il parle des tablettes de pierre sur le mont Sinaï, où Dieu écrit avec son propre doigt les 10 commandements, Moïse est descendu, la peau de son visage rayonnait, c'était glorieux. D'accord? Et pour Israël, dans l'histoire d'Israël, c'est le sommet. Moïse est leur plus grand prophète. Le don de la loi, c'est... Vous voyez, pour eux, ça vaut tous les trésors. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice lui est supérieur en gloire.
Pourquoi ministère de la mort?
Pourquoi ministère de la mort? Parce que... il faut lire les versets précédents. Verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. C'est-à-dire que la loi montre qu'on est pécheur, et par le péché, on va mourir, donc la loi conduit à la mort. Ok? Et donc, le ministère de la mort, c'est le ministère de la loi. Ça conduit à la mort. Par contre, il faut voir tous les gens qui sont morts dans l'ancienne alliance. Quand vous regardez l'histoire des Nombres, le peuple d'Israël avec Moïse dans le désert, tous ces gens qui meurent, et à un moment donné, ils disaient à Moïse, on va tous mourir, ou bien ça s'arrête quand cette histoire? Ils n'en peuvent plus, vous voyez? Parce que la loi ne peut pas changer ton cœur. Ok? Et donc, même si ce ministère-là était glorieux, Paul dit, mais le ministère de l'esprit qui donne la vie est bien plus glorieux. Non? Oui. On pourrait lire la suite de 2 Corinthiens 3, c'est extraordinaire, mais on va pas anticiper. Donc, c'est pour ça qu'il parle ici du régime nouveau de l'esprit et non plus le régime ancien de la lettre. Attention, Paul fait la différence entre la parole et la lettre. Parce que la parole, elle est vie. D'accord? Les paroles que vous avez dites sont esprit et vie, dit Jésus. Donc sa parole, elle est vie par le Saint-Esprit. Elle est toujours associée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours associé à la parole. Mais la lettre, en elle-même, sans le Saint-Esprit, c'est ce qui devient une condamnation. Vous voyez? Et c'est ce qui peut nous tuer, au final. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous prêche la lettre, sans Saint-Esprit, qui vous prêche la condamnation, et ça vous tue. Ce qui a besoin, c'est le texte, oui, mais qui est rempli du Saint-Esprit et qui apporte la vie. Il y a une différence là à faire. Donc, on va relire juste 7 versets 1 à 6 et vous allez mieux comprendre avec ce qu'on a expliqué. « Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Sous-entendu, on ne peut pas porter de fruits en cherchant à mettre en pratique la loi par nos propres forces. Ça, c'est les œuvres mortes, c'est les œuvres de la loi, ça conduit à rien. Par contre, si on dépend du Saint-Esprit et qu'on est mort avec Christ et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, là, on va porter du fruit. Vous suivez? Quand tu dis « j'ai tout essayé, rien n'a marché », et que tu te mets à genoux et que tu pries, que tu cherches la face de Dieu, tout à coup, tu vois des choses qui commencent à se passer. Tu dis oh, « c'est extraordinaire, j'ai rien fait ». Enfin, tu n'as rien fait. Enfin, Dieu peut se manifester. Vous voyez? Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Même aujourd'hui, en tant que chrétien, si tu veux faire les choses par tes propres forces et tu t'agites, comme disait Paul à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Vous savez que cette histoire de Marthe et Marie, elle est quand même choquante. Elle est choquante. Parce que franchement, moi je me mets du côté de Marthe, et je dis franchement, Jésus, t'es injuste, c'est moi qui fais tout le boulot, et puis tu donnes les récompenses à elle, qui fiche rien. Ok? L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Mais enfin, Seigneur, je ne comprends pas. Croire, ce n'est pas une œuvre, si. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est de faire confiance. C'est d'abandonner les efforts de la chair et de laisser Dieu agir. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez comment la parole, l'évangile, il est à contre-courant de ce que notre chair nous indique. De même, frère, on disait au verset 4, vous qui êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ pour appartenir à un autre qui est ressuscité d'entre les morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien. Vous notez le « mais maintenant ». C'est-à-dire que il n'y a pas de raison de rester sous l'emprise du péché et esclave du péché. Il n'y a pas de raison. Maintenant, on est dégagé de la loi et on peut servir Dieu par l'Esprit, d'accord, sans être sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est possible. Ne me dites pas le contraire. C'est possible. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché, verset 7? Non. Et je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc en fait, ce qu'il explique ici Paul, c'est que la loi provoque le péché. Et on prend toujours l'image, on en parlera la prochaine fois quand on reviendra sur Romains 7, 7 et la suite, mais on prend l'image d'un parc public avec un banc, et puis sur le banc, qui est tout beau, tout neuf, tout propre, il y a un écriteau qui dit « peinture fraîche, ne touchez pas ». Et quand les gens passent devant le banc, la première chose qu'ils font, ils essayent pour voir si c'est vraiment la peinture fraîche. Pas vrai ? S'il n'y avait pas eu le panneau, vous n'auriez même pas fait attention à ce banc. Vous voyez ? Vous n'auriez même pas touché. Mais parce qu'il y a le panneau qui dit « ne touchez pas », vous avez envie de le toucher. Donc la loi provoque cette nature de péché qui est en nous. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Paul dit, c'est pas la loi qui est mauvaise, c'est le péché qui est en nous qui est mauvais. D'accord ? Simplement que la loi le met en exergue, le fait ressortir. Pour moi, verset 9, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Voilà. Donc Paul remet les choses en place. Attention, même si la loi nous montre qu'on est pécheur, le problème n'est pas du côté de la loi. Le problème est du côté du pécheur. Amen. Faut pas tout confondre. Néanmoins, la loi va faire ressortir le péché. Hein? Donc, à aucun moment dans l'Épître aux Romains, parce que, vous voyez, Paul vient de nous dire clairement qu'on n'est plus sous le régime, on est libéré de la loi, on n'est plus sous la loi. Ok ? Mais pour autant, la loi n'est pas mauvaise. Ce n'est pas la loi qui a un problème. On n'est plus sous la loi, mais la loi n'est pas le problème. Le problème, c'est le problème du péché. Et c'est toujours le problème du péché. D'accord ? C'est rien d'autre. Donc, à partir de là, on pourra aller plus loin. Mais quelque part, avec ce chapitre 6 des Romains, on a déjà, j'allais dire, on tient le bon bout. Hein ? On tient le bon bout. Et on sait que la vie chrétienne victorieuse est possible. Amen ? Et on verra, avec la fin du chapitre 7, et le début du chapitre 8 la prochaine fois, qu'on peut vivre par l'Esprit, et qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche concrètement. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Soyez bénis.